les agents du FBI font généralement des horaires de bureau. Bien sûr, ils se vantent d'avoir toujours un sac tout prêt et de pouvoir décoller au pied levé, mais comparé aux exigences du travail des policiers de terrain, disons au hasard à celui d'une enquêtrice de Boston, le rythme est relativement pépère. Si Didi avait bonne mémoire, l'agent spécial Kimberly Quincy avait deux filles, ce qui voulait sans doute dire que, comme la plupart des parents, elle se levait de bonne heure. En croisant cette information avec les difficultés de circulation à Atlanta, le fameux échangeur spaghetti, et le fait que tout banlieusard avait donc intérêt à prendre le chemin du bureau pas trop tard, Didi en arriva à la conclusion que c'était aux aurores qu'elle avait les meilleures chances de joindre l'agent fédéral. 5h30 du matin, c'était tout de même un poil trop tôt. Alors Didi fit ses exercices de rééducation du bras et de l'épaule, puis elle se doucha, s'habilla et entendit Jack l'appeler. Elle le sortit de son lit voiture de course en le prenant dans son bras valide et se souvint alors des vroom vroom de rigueur. Ensuite, zigzag dans le couloir, descend des escaliers sur les chapeaux de roue et sprint pied au plancher vers la cuisine et les pancakes en forme de dinosaure. Quand Alex avait acheté ses moules sur un coup de tête, Didi avait levé les yeux au ciel. Mais il fallait reconnaître que Jack les adorait. Les pancakes étaient indiscutablement deux fois meilleurs quand ils ressemblaient à des brontosaures. Jack prit son petit déjeuner en grenouillère. Attendu qu'un repas de pancakes arrosé de sirop d'érable était la garantie de vêtements tachés, sans parler de la quantité de sirop qu'il arrivait à mettre dans ses fins cheveux. Le pyjama irait à la machine, quant à la coiffure. Didi trouvait que le look hérisson lui allait bien. Sirop d'érable, gel capillaire. Quelle différence pour les tout-petits. Après tout ce temps passé loin de son fils, elle se fit un plaisir de l'habiller pour la maternelle. Après quoi, elle sortit Candyland et tout un paquet de cartes colorées, parmi lesquelles figurait bien sûr Jolly la boule de gomme, histoire d'occuper Jack dans le salon, pendant qu'elle se réfugiait dans la cuisine pour appeler Atlanta. La première tentative fut la bonne.
Quincy ?
Répondit l'agent du FBI. Bonjour, commandant Didi Warren, police municipale de Boston. On s'est déjà parlé il y a quelques années. L'affaire Charlene Grant. Vous aviez enquêté sur le meurtre de son ami à Atlanta.
Bien sûr. Au fait, chapeau sur ce coup-là. Sincèrement, je ne pensais pas que Charlene survivrait au 21 janvier.
Disons que, de temps à autre, ce boulot procure quelques satisfactions. En ce moment, je suis sur une autre affaire et votre nom est apparu dans le dossier. Didi mit l'agent du FBI au courant des récentes activités de Flora, qui avaient conduit à sa disparition. D'après ce que j'ai compris, c'est vous qui avez finalement localisé Jacob Ness.
Exact.
Dit Quincy d'une voix plus sourde, plus grave. Certaines affaires vous marquent à vie. Didi se doutait bien que celle de Flora et l'assaut qui avait permis sa libération en faisaient partie.
Que savez-vous de son enlèvement d'il y a 7 ans?
Demanda Quincy. Pas grand-chose. Boston n'était pas dans la boucle puisqu'elle avait disparu en Floride.
C'est juste. Un kidnapping assez classique. Une étudiante en vacances de printemps sortie prendre un verre avec des amis, elle va aux toilettes, elle la laisse si elle est seule et pouf, elle disparaît.
J'ai un autre cas similaire en ce moment, dit Didi en se demandant si c'était à cause de cette ressemblance que Flora avait réagi aussi vivement à l'enlèvement de Stacy Summers.
Malheureusement, les recherches ont été lentes à démarrer. Les copines éméchées ne sont pas très douées pour faire des signalements. Surtout qu'elles s'étaient mises en tête que Flora était rentrée chez elles. Et je ne parle pas de leur chambre d'hôtel. À un moment donné d'une soirée en boîte bien arrosée au rhum, elles avaient décidé de retourner dans le nord. Si bien que les copines n'ont pas vraiment écumé la plage pour la retrouver.
Punaise.
Une des filles a fini par avoir l'idée d'appeler la mère de Flora dans le Maine. Une femme solide, intelligente. Ruth ? Rachel ?
Rosa.
Rosa, voilà. Rosa a rempli le formulaire de signalement de disparition, ce qui a permis d'ouvrir l'enquête, mais à ce moment-là, il s'était déjà écoulé 2 jours, 2 jours et demi. La piste était froide. La police locale a cherché un peu, mais n'a rien trouvé.
Didi n'était pas étonnée. Une affaire de disparition est toujours une course contre la montre. En l'occurrence, Flora était déjà mal partie. Pourquoi a-t-on fait intervenir le FBI ?
À cause d'une carte postale. Je ne me rappelle pas tous les détails, mais quelques semaines plus tard, peut-être un mois, Rosa a reçu une carte postale de sa fille, postée à Jacksonville. L'écriture ressemblait à celle de Flora, mais le texte avait de quoi inquiéter.
C'est-à-dire ?
Je pourrais vous en envoyer une copie, mais...
Le ton frisait l'hystérie.
Maman, je m'amuse comme une folle, j'ai rencontré le mec le plus mignon de la terre, tu devrais voir où je dors, la chambre idéale, c'est le bonheur parfait, et on baise comme des fous, embrasse Chili pour moi.
Rien que ça ? S'exclama Didi, stupéfaite.
Oui, pas vraiment le genre de carte postale qu'une fille envoie à sa mère. Rosa Dane s'est inquiétée, et le mot est faible. Quant à la référence à Chili, c'était le premier chien de Flora, mort depuis des lustres. Le profileur du service d'analyse comportementale qui nous a aidés sur cette affaire pensait que Jacob avait obligé Flora à introduire ce détail dans le message pour l'authentifier. Il ne pouvait pas avoir été envoyé par le premier venu qui aurait appris la disparition de Flora par voie de presse. Le ravisseur voulait que Rosa et nous tous sachions que nous avions affaire au vrai coupable.
J'imagine que vous avez aussi analysé l'écriture.
Oui, mais on ne peut pas dire que ça ait donné des résultats fracassants. Certaines lettres correspondaient à l'écriture de Flora, mais elles étaient petites, toutes rabougries et tremblées. Ça perturbait l'analyse.
Didi réfléchit un instant. Parce que Flora écrivait sous la contrainte ou parce qu'elle-même avait changé? Qu'elle était terrifiée, martyrisée, affamée?
Toutes ces hypothèses ont été envisagées à l'époque. Mais l'information la plus importante était dans le contenu du message. Flora s'amusait comme jamais. Elle était avec un mec mignon et ils baisaient comme des bêtes. Pas de « Au fait, maman, désolée d'avoir pris la poudre d'escampette pendant les vacances, mais ne t'inquiète pas, je suis avec des amis. » Autrement dit, le ravisseur ne cherchait pas à dissimuler la disparition de Flora. Il voulait juste torturer la mère en lui faisant clairement savoir que sa fille avait été enlevée.
C'est là que le profileur vous a expliqué que le criminel avait appris la propriété sous la menace d'une arme ?
Oh, il n'était pas à court d'idées sur la question. Mais à l'époque, nous en étions encore à rassembler des informations. Nous avions un premier message et un cachet de la poste. La police de Jacksonville a pu établir que la carte avait été postée dans un bureau situé au bord d'une autoroute très fréquentée. Mais les boîtes aux lettres extérieures n'ont pas de caméra de surveillance, donc on a abouti à une impasse.
Mais il y a eu d'autres messages.
Oui, une deuxième carte est arrivée 3 mois plus tard. La première représentait une plage au coucher du soleil. Celle-là montrait une pêche de Géorgie et elle avait été postée à Atlanta.
C'est là que vous êtes entrée dans le jeu, devina Didi.
C'est là que je suis entrée dans le jeu. Le contenu de la carte était presque le même. C'est le pied, le mec idéal, la baise est de mieux en mieux, et bonne nouvelle, j'ai enfin perdu ces 5 derniers kilos.
Elle avait maigri? Et elle avait du poids à perdre?
Non, c'était une jeune fille active qui passait sa vie au grand air. D'après sa mère, elle n'avait pas 5 kilos de trop.
Oh mon Dieu! Didi comprit enfin comment il fallait lire les messages. Et cela lui donna la nausée. Il l'affamait. C'est de l'ironie, du début à la fin. Le mec mignon, c'est un type moche comme un pou. Le sexe d'enfer, ce sont les interminables nuits de viol. Et les 5 kilos, mais quel... Didi n'avait pas de mots assez durs pour qualifier Jacob Ness. Heureusement qu'il était déjà mort. Sinon, elle se serait sentie obligée de le traquer pour le tuer de ses propres mains.
À ce moment-là, Flora avait disparu depuis environ 4 mois. Maintenant qu'on avait la preuve qu'elle était encore en vie et qu'elle avait franchi une frontière entre États, ça a été la mobilisation générale au FBI. Sauf qu'on n'avait aucun élément sur lequel nous appuyer. Il n'existait aucune vidéo, aucun témoin de l'enlèvement. Est-ce qu'elle avait suivi un type? Est-ce qu'elle était tombée dans un traquenard? Impossible de trouver quelqu'un qui aurait vu quoi que ce soit.
Moi, j'ai la vidéo d'un enlèvement et malgré cela, personne ne sait rien, observa Didi. Et les cartes postales?
Nous avons pu retrouver dans quel bureau la deuxième avait été postée. Mais là encore, pas d'image, pas de témoin. Tout ce que nous savions, c'était que les deux bureaux se trouvaient à proximité de grands axes. Des étapes pratiques pour quelqu'un qui est sur la route.
La deuxième carte contenait des détails personnels?
Merci de nourrir les renards. Quand elle était petite, Flora aimait apprivoiser les renards sauvages dans la ferme de sa mère.
Le collier de Rosa, se souvint Didi. Elle porte un pendentif en forme de renard.
Exactement. Sur cette deuxième carte postale, l'écriture s'était encore dégradée. Elle était toute grêle, tremblante, faiblarde. Si on en croit à la graphologie et à la possibilité de déchiffrer la personnalité d'un individu à partir, disons, de l'inclinaison de son écriture, Flora était en train de perdre pied.
« Je connais la graphologie, » dit Didi. « Je ne sais pas quoi trop en penser, mais dans une affaire où on n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent... »«
On prend ce qui vient, »
confirma Kimberly.
Vu l'absence de pistes et le fait que l'individu s'intéressait visiblement à la maman, le profileur a préconisé une conférence de presse, dont Rosa serait la vedette. Puisque le ravisseur s'adressait directement à elle, c'était à son tour de s'adresser à lui, pour voir si nous arrivions à le faire réagir.
Ça a marché?
Pas sur le coup, à notre connaissance. Le profileur avait préparé un discours qui devait humaniser Flora en insistant sur sa famille aimante, son enfance hors norme dans les forêts du Maine, son attention aux autres, etc. On a relooké Rosa pour que toutes les mères d'Amérique puissent s'identifier à elle. Au fond, le ravisseur écrivait sa version de l'histoire. Flora était une étudiante nymphomane, obsédée par les hommes. Et nous sommes allés à l'extrême inverse. C'était une gentille fille qui aimait la nature, adorée de tous ceux qui la connaissaient.
Didi ne put s'empêcher d'afficher une moue sceptique. Ce deuxième portrait ne correspondait pas franchement à la Flora morose et à Cran qu'elle connaissait. Et elle se demanda si la maman de Flora n'avait pas raison, en fin de compte. Elle n'avait jamais connu et ne connaîtrait jamais la véritable Flora Dane. Elle n'avait rencontré que la créature pervertie, sortie des mains de Jacob Ness au terme de 472 jours de captivité.
Rosa a joué le jeu,
racontait Kimberly.
Elle s'est mise au pupitre, elle a regardé droit vers les caméras et elle a fait passer un message plein de compassion, authentique et émouvant. Les salles de rédaction en redemandaient. Nous avons eu droit à une couverture nationale pendant une bonne semaine, alimentée par la participation de Rosa à plusieurs grandes matinales. Ce qui n'avait rien de facile ni de naturel pour une femme qui, jusque-là, était surtout à l'aise au volant d'un tracteur.
Didi comprenait ce qu'elle voulait dire. De nos jours, il fallait avoir le cœur bien accroché pour accomplir ce que les médias exigeaient de la part des victimes. Surtout quand le responsable d'enquête murmurait à l'oreille du parent qu'il fallait en passer par là. Si vous voulez revoir votre enfant, vous n'y couperez pas. Il faut vous mettre à nu devant tout le pays. Et ensuite ?
Rien.
Rien ?
Rien. Les semaines ont passé, les mois. La piste refroidissait. Rosa parlait, sans recevoir ni carte postale, ni message en retour. Nous avons diffusé la photo de Flora aux quatre coins du pays sans recevoir d'informations crédibles. Ce qui, au bout d'un moment, a commencé à devenir significatif. Soit Flora était séquestrée au point qu'il n'y avait pas de témoins, soit il avait remarquablement réussi à modifier son apparence. Et soit il se fichait des conférences de presse, soit il ne les voyait pas.
Il ne les voyait pas ?
Notre profileur, Ken McCarthy, pensait qu'une fois que l'individu avait amorcé une conversation, il ne pouvait pas tourner les talons comme ça. Et que si nos tentatives de communication ne provoquaient pas de réaction, c'était peut-être qu'il ne recevait pas les messages. La phase suivante de notre enquête dans le Sud a donc consisté à rechercher tous les reclus et autres survivalistes qui vivaient en marge de la société et qui avaient des antécédents d'agression sexuelle. Et je peux vous dire que la liste était longue.
Pas bête comme stratégie, reconnut Didi. Ce genre d'individu aurait certainement correspondu à votre profil. Il aurait torturé la mère prise comme représentante d'une figure d'autorité, c'est ça ?
Eh, on est le FBI. Sur le papier, on peut faire passer n'importe quelle théorie. Malheureusement, nous nous trompions.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est Jacob qui a finalement renoué le contact. Pas avec une carte postale cette fois-ci, mais avec un email, envoyé depuis un compte postiche à l'adresse personnelle de Rosa. Il avait joint un enregistrement de la voix de Flora.
Didi fit la grimace. Elle imaginait le supplice que cela avait dû représenter pour Rosa. Après tout ce temps, entendre la voix de sa fille et en même temps des horreurs, les paroles corrompues qui avaient dû sortir de sa bouche.
Ce type d'escalade dans la communication n'a rien d'inhabituel,
continua posément Kimberly.
Nous avons assuré à Rosa que c'était bon signe. Cela signifiait que Flora était toujours en vie et que, si étrange que cela puisse paraître, elle était encore importante aux yeux du ravisseur. Par ailleurs, le fait qu'il soit passé au courrier électronique nous a aidés. Nous avons pu retrouver l'adresse IP de l'ordinateur d'où le message avait été envoyé, un café Internet dans l'Alabama, situé comme les bureaux de poste près d'une grande autoroute. Ça nous a permis de réorienter l'enquête. Nous ne cherchions plus un survivaliste planqué au fond des bois, mais un individu qui se déplaçait beaucoup. Un commercial, par exemple, un chauffeur de poids lourd. Étant donné le nombre d'heures que ces gens-là passent sur les routes, il était possible qu'il ait raté les émissions d'infos du matin ou les journaux du soir. D'où l'absence de réaction à notre matraquage médiatique. Nous avons modifié notre communication en conséquence pour nous concentrer sur les médias les plus susceptibles de toucher un individu itinérant et en faisant porter l'effort sur les réseaux sociaux, par exemple en publiant un message par jour sur Facebook auquel l'individu pouvait se connecter sur son ordinateur portable ou sur son téléphone pendant ses pauses. Nous avons aussi ciblé les radios locales et la presse indépendante. Le genre de publication quotidienne facilement accessible dans les restoroutes, les stations-service, les motels. Pour cette phase de l'enquête, son frère a créé toute une page Facebook pleine de photos personnelles de Flora, des images de sa vie quotidienne, la ferme et les bois alentours, un renard qui jouait dans le jardin. Il a aussi passé du temps avec sa mère pour préparer des messages, un par jour, qui parlaient de tout et de rien, depuis le livre préféré de Flora jusqu'à la vie du village, les anniversaires familiaux qu'elle était en train de rater. Nous avons invité les voisins et les amis à contribuer. Tout ce qui pouvait rappeler sans relâche au ravisseur qui était réellement Flora. Une jeune fille qui manquait beaucoup à sa famille et à ses amis.
Dans ses messages, il détruisait sa personnalité. Dans les vôtres, vous la reconstruisiez.
Nous avions besoin qu'il entre en contact avec nous. Si contrer ses messages pouvait le pousser à envoyer de plus en plus de cartes postales, messages électroniques ou vidéos, ça jouerait en notre faveur.
Il avait envoyé des vidéos ?
Le provoquer pour qu'il nous réponde s'est avéré une stratégie très efficace.
C'était vous qui l'aviez mise au point ?
Oui.
À en croire Rosa, c'est la bêtise de Jacob qui l'a perdue. Il a envoyé le message de trop et vous l'avez coincé. Mais à vous entendre, c'était bien le plan. Vous ne restiez pas les bras croisés à attendre qu'il écrive quand ça lui chanterait. Vous l'arrosiez d'informations pour l'appâter.
Avec ce genre de stratégie, les familles en bavent,
dit Kimberly en soupirant.
Les enquêteurs sont comme des généraux. Ils mettent au point le plan de bataille à l'arrière du front, mais Rosa et Darwin étaient nos fantassins. Tous les jours, il fallait qu'ils s'assoient devant leur ordinateur pour supplier le ravisseur d'épargner Flora. Ils ont eu à subir les cartes postales dégradantes, les enregistrements audio et ensuite cette vidéo. Nous leur avions conseillé à tous les deux de ne pas la regarder. Mais évidemment, ils étaient avides d'un signe, d'un contact avec leur Flora chérie. Son frère a vomi, deux fois. Quant à Rosa, elle est restée prostrée. On a fini par appeler le médecin. J'ai bien cru qu'elle avait craqué et qu'on l'avait définitivement perdue. Je comprends que la famille voit les choses différemment. C'est naturel. En fin de compte, il était notre meilleur atout pour retrouver Flora. Nous les avons exploités sans vergogne et ça a marché.